48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bien le bonjour à tous, bienvenue pour le dernier Mag de l'année 2012. C'est un magazine spécial aujourd'hui consacré aux fêtes de Noël. Alors ici à 48FM, nous avons pris le pari de faire dépenser moins d'argent pour vos cadeaux de Noël et de compenser en achetant du vin et des pâtisseries. Navina est aujourd'hui notre modératrice. Bonjour Navina.
Bonjour Ludovic.
Alors est-ce que cette idée de dépenser plus dans le vin et dans les pâtisseries au détriment des cadeaux de Noël te convient ?
Alors a priori oui, mais on va peut-être essayer de trouver quand même un juste équilibre.
Exactement, cette émission va servir à ça. Et pour dépenser moins dans les cadeaux de Noël, nous recevons aujourd'hui Mélanie Couerchon de la Maison Solidaire qui va nous expliquer comment construire son propre cadeau. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Œnologie, et c'est Guy Salaï de l'association Les Sarmentelles qui était déjà venu nous parler de vin dans le mag et qui revient pour ses fêtes de fin d'année. Bonjour Guy.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et enfin, il va arriver aux alentours de 13h car il travaille, c'est le pâtissier mandois de Majorelle qui va évoquer avec nous les desserts propices à ses repas de fête. Alors Guy Salaï, qui dit fête de fin d'année, dit repas et dit également poisson, fruits de mer, viande, volaille. Alors pour accompagner tout ça, le choix est difficile au niveau du vin. Ce n'est pas une bouteille de rouge pour accompagner l'ensemble du repas, mais plusieurs bouteilles différentes. On va avoir besoin de vos conseils.
Mais je suis tout à fait disposé à donner de l'information dès l'instant où je la détiens.
Alors on va peut-être parler du repas et on va commencer par l'apéritif. Alors déjà, est-ce que vous êtes de ceux qui sont pour le champagne en apéritif ou plutôt en fin de repas ?
Alors en fait, c'est vrai que le champagne a une particularité par rapport à tous les autres vins, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Non, je ne suis pas très preneur du champagne, comme les clairettes, etc. Mais après tout, il en faut pour tout le monde et vu le prix que ça se négocie, je comprends que quelques personnes soient intéressées.
On peut peut-être boire du vin en apéritif ou on le réserve uniquement pour le repas ?
Alors, je crois que c'est vrai. Si on en parlait tout à l'heure, si on commence à raisonner sur un repas de fête, ça veut dire que ça va être un repas un petit peu long, avec un temps de digestion, etc. On va se poser. Moi, je crois que déjà, l'important, c'est aussi de ne pas nuire à toute cette cuisine qu'on va avoir derrière. Parce que si on va associer des turbos à la crème, des foie gras, etc., etc., je vous interdis de vous abîmer la bouche avec un vin qui va un petit peu anesthésier vos papilles. Voilà.
Justement, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de vins différents sur ces repas de fête. Il y a le problème de la quantité qui se pose souvent.
Ah ben oui, tout à fait. Maintenant, il y a le problème également de savoir combien vous voulez servir de plats. Et en fonction des plats, combien de vins vous allez prévoir également, du rouge, du rosé, du blanc. Est-ce que ça va être des vins cuits? Est-ce qu'on va retourner sur des vins effervescents? Parce qu'après tout, vous avez notamment les créments de Bourgogne d'ailleurs qui sont délicieux. Ça vous permet également de diminuer un petit peu votre coût, travailler dans l'originalité en rajoutant, par exemple, un fruit congelé, une framboise congelée ou autre dans la coupe, et vous allez avoir quelque chose de super sympa. Mais rien ne vous empêche également de faire des petits clairs de lune, des choses comme ça, avec des petits vins rosés ajoutés de tel jus de fruits, etc. Maintenant, moi, je suis beaucoup plus preneur pour une harmonie. D'abord, c'est un peu plus classe, entre guillemets, et c'est bien plus agréable pour la personne quand elle va se trouver à la table. C'est de peut-être commencer avec... Pour ceux qui sont, bien sûr, les habitués des alcools forts, qui partent sur les alcools forts, c'est leur souci. Mais pour ceux qui ont envie vraiment de déguster la soirée, peut-être démarrer avec un vin qu'on va retrouver dans le repas et qui va élégamment s'associer. Alors, je ne veux pas dire qu'on va prendre, par exemple, un vin très moelleux en apéritif pour le retrouver avec du foie gras. Mais on peut très bien travailler avec un demi-sec et retrouver un beaucoup plus moelleux après. Toujours dans la même collection, dans la même gamme. Voilà. Je crois que ça, c'est l'intelligence, d'ailleurs, dans l'harmonie des menus. Et ensuite, peut-être, il faut arrêter de penser qu'à chaque plat, un vin, parce que c'est une très mauvaise réflexion. Il faut d'abord savoir qu'on part toujours d'un vin relativement léger, doux, etc., pour aller toujours sur du corsé. Si vous ne respectez pas cette règle-là, déjà, vous n'allez pas respecter du tout la règle de l'organisation, de l'harmonie dans la cuisine, parce que la cuisine, elle est toujours comme ça. Ça, c'est une chose.
Celui qui n'y connaît strictement rien en vin, quelles sont les erreurs à éviter à tout prix ? Quel est le conseil que vous pouvez lui donner pour que la fête de fin d'année ne vire pas à la catastrophe ?
Les erreurs à éviter à tout prix, c'est de se fier systématiquement aux avis des autres personnes. Et même aujourd'hui, je suis là pour donner des petites astuces, mais en fait, je l'ai dit précédemment, on doit servir que ce que l'on aime. Déjà, ça, à mon avis, c'est la principale chose. L'autre grosse erreur, c'est d'aller acheter un flacon à 50-60 euros alors qu'on peut très bien avoir la même chose à 10 euros. Donc ça, c'est absolument absurde. En plus, aujourd'hui, on est sur des terroirs qui présentent des savoir-faire remarquables, qui rentrent vraiment dans les grandes tables, dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, pardon. Alors, moi, je fais confiance justement à ce savoir-faire-là. Je pense que raisonnablement, en vin, déjà, bon, Ludovic, vous en parliez tout à l'heure, au niveau des quantités, il faut savoir que par flacon de 75 centilitres, on évalue à peu près à 5, entre 5 et 7 verres par convive. Bon, moi, je compte 7 verres, c'est l'idéal. Et ça vous permet après de redistribuer ce dosage-là avec les couleurs de vin. Non compris l'apéritif, si vous travaillez sur des blancs et des rouges, ben, à ce moment-là, vous faites 2 verres de vin blanc, 5 verres de vin rouge, vous avez une quantité globale, ça vous permet déjà d'approcher le volume à acheter. Après, à côté de ceci, en fonction de votre apéritif, si vous allez y présenter pas mal de toasts composés ou autres, ou le dessert, si c'est un dessert qui va durer dans le temps, vous allez avoir une consommation de vin ou d'autres boissons qui va être importante. Donc ça va bien sûr conditionner, ça va impacter votre budget et vos achats. Pour le repas lui-même, moi je pense qu'il faut quand même essayer d'être raisonnable. Il faut rester sur un vin blanc et probablement un vin rouge. Si vous avez des personnes qui sont non adeptes de l'un ou de l'autre, bon, vous pouvez vous risquer un vin rosé, mais alors là, restez tout à fait classique, traditionnel, parce que c'est très marginal, surtout dans ce genre de repas. C'est assez délicat à associer, parce qu'on n'est plus sur des plats composés, on n'est plus sur des plats d'été. Ça veut dire aussi que ce vin rosé, il va être aussi bien bu que pour les entrées, que pour éventuellement quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Donc c'est un peu dangereux. Mais bon, le rosé, on ne peut pas le supprimer, il existe. Et je veux dire, avec par exemple des fougères, qui eux seront très classiques, vous allez les toucher à 5-6 euros à peu près le flacon, vous allez avoir un rosé de très bonne qualité. Et là, au moins, vous ne vous mettez pas en danger. Voilà.
Oui, parce qu'on a le blanc pour les fruits de mer, le rouge pour la volaille. C'est vrai que le rosé, on peut le boire avec quoi ?
Ben, en fait, on peut le boire avec pas mal de plats composés, mais on peut le boire également avec des feuilletés, avec toutes ces choses-là, dès l'instant où on a envie d'alléger un petit peu la recette. Mais attention, si on prend un feuilleté, par exemple, aux escargots de Bourgogne, on ne va quand même pas se permettre de mettre un rosé avec, parce que la cuisine est lourde, donc ça va nécessiter un vin qui sera beaucoup plus du terroir. Donc, l'astuce, c'est toujours d'essayer de rapprocher ce que l'on va consommer en aliment avec le vin qui est produit à proximité. Les foies gras, on le sait, tout le monde se rapproche toujours des sauternes, etc. Il ne faut pas que ce soit une règle dans l'absolu, parce qu'il y a bien meilleur, si on peut dire, pour moins cher. Maintenant, si vous me proposez un château week-end, je répondrai favorablement à votre attente. Mais si on parle des escargots de Bourgogne, moi, j'associerai énormément, plus facilement, un vin de Bourgogne. Voilà. Ça, c'est une bonne astuce, déjà, pour se retrouver dans les rayons des supermarchés. Puis faites confiance également aux supermarchés qui vous proposent plusieurs variantes dans les menus. Même si vous ne voulez pas acheter ceci, que vous vouliez fabriquer votre menu, ça vous donne une indication des vins qu'eux, ils ont associés. Donc voilà, si vous ne connaissez pas du tout, ou si vous n'avez personne pour vous guider, c'est peut-être là une bonne astuce également. Votre caviste vous aidera.
Dans les rayons, on voit souvent des vins qui ont une médaille d'or, une médaille d'argent. Est-ce que c'est un garant de qualité ?
Personnellement, je pense que oui. Maintenant, tout le monde n'adhère pas à cette idée. Je le vois pour nous, sur Mende, on a créé un concours qui quand même met à l'honneur les vins du Languedoc. Et là, on a donc 9 familles qui sont primées, plus le coup de cœur. Très sincèrement, très honnêtement, les vins qui sont retenus sur Mende, c'est comme les concours de Orange, de Uzès, de Montpellier. C'est vraiment des concours qui sont surtout axés sur la qualité et le prix. Donc là, oui, c'est quelque chose de garant pour l'achat. Maintenant, pour les vins de Noël, d'un premier de l'an ou d'un beau repas, d'un repas de fête, il faut peut-être sortir de ces sentiers battus et essayer de découvrir la petite perle rare, se faire plaisir. Moi, à titre personnel, j'adore le foie gras, mais le foie gras entier. Je vais le servir avec un compoté d'oignons et à côté de ça, je vais mettre un concassé de noisettes. Donc forcément, ça va finir avec un coteau du Layon, une croix de Varenne, quelque chose comme ça. Mais il faut aussi que la personne ait envie d'aller vers ce vin-là. Moi, je vais prendre un coteau du Layon parce qu'on va se retrouver dans le domaine intérieur de la France.
C'est du blanc. Hein.
C'est un blanc, oui. C'est un blanc qui est assez doux, mais il n'est pas aussi moelleux, si on peut dire, que par exemple Sauternes, etc. Et puis au niveau du coût, vous allez vous y retrouver aussi. Encore que je vous signale, avec Coteau du Layon, il y a 47 appellations différentes. Mais bon, c'est un vin que vous allez même pouvoir associer à l'apéritif. Ça vous permet évidemment de moins calculer un petit peu vos achats. Ce que vous ne consommerez pas à l'apéritif, vous l'aurez pour le repas. Donc ça, c'est intéressant. Et beaucoup plus astucieux, c'est que ce vin-là, dans le cas où vous manqueriez de vin intéressant pour votre dessert, ou dans le cas où les gens n'aimeraient pas de vin pétillant, si vous avez un dessert, notamment un ensemble de mignardises, du chocolat, des choses comme ça, sachez que le vin blanc moelleux va aller à la perfection. Si ce n'est pas un muscat de Saint-Jean, ça va être un muscat de Mireval, un frontignan ou autre, et pourquoi pas un coteau du Layon. Mais vous avez encore moins cher, et bien plus près de nous. Vous avez les clairettes d'Adissan qui sont parfaites. Ce sont des vins blancs que vous allez toucher à 3 euros. Et du moment que vous ne montrez pas le flacon, je vous assure, les gens vont être bluffés.
Alors, il y a la bière sans alcool. Est-ce qu'il y a aussi du vin sans alcool? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas consommer d'alcool, qui sont enceintes ou qui n'aiment pas l'alcool, tout simplement. Est-ce que ça existe déjà?
Alors, en fait, ça existe dans les laboratoires, mais pas dans les rayons. Et je crois que c'est tant mieux, parce qu'il faut quand même que le patrimoine soit préservé tout au long de l'année, parce que derrière, il y a des gens qui vivent de ce travail-là, qui ont l'habitude de travailler cette tradition, etc. On ne peut pas leur faire cet affront. En plus, quel est l'intérêt? Femme enceinte, je veux dire, il y a quand même le picto qui est venu sur la bouteille. On en a tellement de picto qu'on ne saura même plus les lire bientôt. Ensuite, normalement, c'est une boisson qui est réservée aux adultes. Donc, si on est entre adultes, il faut être responsable aussi. Je crois que la personne qui va élaborer un menu, il faut aussi qu'elle prenne en compte les invités qu'elle va avoir à sa table. Et puis, peut-être à ces gens-là, leur proposer autre chose. Je ne dis pas qu'il faut boire de l'alcool. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est toujours à consommer avec modération, pas une personne supplémentaire à table. Mais si vous voulez apprécier quelque chose de bon, il n'y a pas d'autre solution. Il faut partir sur ce qui se fait. Si vous prenez un chapon qui n'a pas été levé dans le noir, qui n'a pas goûté au lait, ça ne sera jamais un chapon. Alors, restons traditionnels.
Et oui, parce que, oui, exactement, vous parliez niveau quantité, 7 verres par convive. Ça se voit que vous n'avez jamais eu Navina à table. Vous parliez du foie gras avec du blanc. Est-ce qu'on peut garder la même bouteille de blanc pour les fruits de mer ou il faut changer?
Alors, pour les fruits de mer, non. Franchement et honnêtement, non. Parce que là, on est quand même sur du moelleux. C'est quand même assez rond comme goût. On a une approche qui est sympa à la langue et tout. Le fruit de mer, lui, il va demander quelque chose de beaucoup plus sur la note de fleurs blanches, d'oranger, de choses comme ça, de litchi. Donc là, il faut partir sur un vin un peu plus percutant, une accroche beaucoup plus directe en bouche. Surtout si ce sont des fruits de mer qui sont crus, ou des tartares de mer, des choses comme ça. Alors là, oui, je vous conseille plutôt de partir sur des vins qui se boiront déjà à plus basse température, 10, 11 degrés, voire même moins, qui seront plus dans du demi-sec, voire du sec, carrément, parce que c'est bien plus agréable. Alors que précédemment, je vous parlais quand même d'un vin blanc qu'on va déguster à 12 ou 13 degrés.
Donc là, par exemple, quoi comme vin pour les fruits de mer? Vous conseillez quoi?
Moi, j'aime beaucoup les vins de la Clape, par exemple. Ils sont très sympathiques, ils ont un petit goût salin, ça s'associe à merveille avec ceci. Vous avez également dans des vins qui sont tout à fait abordables, les entre-deux-mers. Parfait. Très peu cher, 4-5 euros. Ça fait un très bon effet, un entre-deux-mers. Vous allez le présenter à peu près à 9 degrés, 10 degrés. Facile à préparer à l'avance, on peut déjà les déboucher et tout. Parce que là aussi, la présentation du vin, aussi bon le vin peut-il l'être, si vous ne l'amenez pas correctement sur la table, ça va être un petit peu dommage, quoi.
Alors, je bois peut-être tout le vin. Ludovic, en revanche,
peut-être
mange...
Peut-être parce que je ne laisse pas mon verre à apporter tout le monde.
Ludovic, en revanche, il mange beaucoup de chapons et notamment aussi la dinde. Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je lui serve avec pour qu'il me laisse tranquille à la fin du repas?
Alors déjà, si vous voulez lui faire plaisir, je pense que vous allez lui faire un bon petit chapon avec des feuilles de truffe sous la peau, un chapon poché par exemple. Et alors ceci, selon la tradition, alors là c'est l'exemple typique, si vous faites ça, vous ne pouvez absolument pas sortir des créneaux habituels, si on peut dire, c'est le vin jaune. C'est celui qui va le mieux avec ceci.
Vin jaune, c'est quel terroir?
Jura.
D'accord.
C'est un Jura, et c'est vrai que c'est un vin qui est un petit peu onéreux, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Surtout si le chapeau était beau. Non, à côté de ceci, la dinde, si c'est une dinde qui est tout simplement rôtie, ben, ça va nécessiter un vin un petit peu léger, mais fruité quand même. Et là, vous avez énormément de vins qui vont pouvoir s'associer. Tous les vins de Bergerac, etc., mais vous avez beaucoup plus près de chez nous les Picpoules, alors ne les évitez pas. Ce sont des vins qui sont fameux parce que là aussi, un rapport qualité-prix extraordinaire. Et en fonction des moyens que vous voulez consacrée à votre vin, ben, vous allez trouver des picpoules à partir de 7-8 euros et vous allez monter jusqu'à 35-40 euros. Et croyez-moi, la palette est hyper importante.
Mais c'est du blanc, le picpoule.
Ah, alors, pardon, je vous parlais picpoule en pensant du Pixel-Loup, pardon.
Ah,
du Pixel-Loup.
Je vais me dire désolé, le blanc avec le chapon.
Non, non, c'était absolument horrible. Il n'y a pas d'autre mot.
Notre spécialiste de vin.
Oui, mais, oh, mais vous savez que dans ma tête, je pensais à l'autre. Non, c'est vrai que le Pixel-Loup, lui, il va vous offrir une palette, un choix important. Le Picpoul, lui, sera très bien, par exemple, avec des fruits de mer, notamment avec, par exemple, les moules du bassin de Metz, de Thau, que vous pouvez faire des moules farcies ou des choses comme ça, ou après, bien sûr, les fruits de mer en cru. Hein.
Et à ne pas confondre avec le Pitbull qui est le chien.
Oui, exactement, parce qu'à table, vous mangerez tout. Mélanie, vous êtes connaisseuse en vin, vous vous retrouvez entre toutes ces sortes de vins qui existent ?
Alors, pas du tout, je ne suis pas connaisseuse en vin. C'est très difficile pour moi de choisir un vin correct pour un repas de fin d'année. Mais ce que je retiens, c'est que c'est facile d'aller se faire conseiller. Et donc, il ne faut pas hésiter, en définitive, tout simplement.
Oui, mais c'est vrai qu'en plus... grâce à des associations comme la nôtre, mais il y en a d'autres sur la place, et surtout grâce aux professionnels, parce qu'en fait, sur Mende et même sur toute la Lozère, on est riche quand même de caves, de cavistes et de professionnels. On peut très bien déjà arriver avec une idée, ben, j'aimerais faire une volaille, j'aimerais faire un civet de chevreuil, des choses comme ça. Eux, ils vont quand même déjà vous renseigner, vous amener sur du classique, mais des valeurs sûres. Après, vous pouvez jouer de l'originalité, effectivement. Vous pouvez très bien... recevoir les gens à l'apéritif, je le disais tout à l'heure, avec des muscades frontignan, et après faire des amuse-gueules avec des patates douces, des choses comme ça. Ça va être un petit peu original, on va sortir des sentiers battus, et vous allez pouvoir réutiliser ce muscat pour votre dessert, par exemple.
Oui, et c'est vrai que souvent, on choisit le vin par rapport au repas. Vous, qui êtes un passionné de vin, ça ne vous arrive pas de faire le contraire, de se dire, j'ai envie de boire ce vin, alors qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner avec ?
C'est rare.
C'est rare.
En règle générale, c'est rare. Déjà, la décision de préparer tel repas, tel menu avec tel mets ou tel autre, c'est quand même vu avec mon épouse qui est aussi passionnée là-dessus. Alors, on n'aime pas manger en quantité, on aime manger bon, tout simplement, et surtout vrai. Alors, du coup, on parcourt les rayons plusieurs fois avant de se décider ce que l'on va préparer. Et en fonction de ceci, on sait forcément qu'on trouvera la réplique pour le vin et pour mettre en valeur justement ces plats-là. Et c'est vrai que cette année, on a choisi le chapon, parce qu'on va avoir un chapon de ferme, un véritable chapon. On ne le fera pas à la truffe, on va le faire avec des fruits secs. Et à côté de ceci, je sais pertinemment ce que je vais pouvoir proposer comme vin.
Vous avez conseillé de commencer le repas par un vin blanc et puis passer au rouge. Est-ce que c'est parce que la transition est plus facile ou est-ce qu'on peut aussi très bien commencer par un vin rouge en entrée ?
Alors ça, c'est une question intéressante. Passer avec un vin rouge en entrée, bon, sauf si vous démarrez par des charcuteries, je vois mal le coup. Moi, je pense que quand même, il faut jouer la finesse parce que vous allez démarrer forcément ou par des foie gras ou des choses comme ceci, voire même peut-être une petite salade composée avec des magrets de canard fumés, peut-être des choses dans le style feuilleté, feuilleté aux chèvres, des feuilletés d'asperges, des cassolettes de Saint-Jacques à la Bretonne, des choses comme ça. Donc là, avec le vin blanc, vous allez pouvoir démarrer crescendo jusqu'à vous allez pouvoir progresser crescendo pardon jusqu'à votre repas, votre plat de résistance, le plat qui doit mettre en valeur votre menu. Et si entre temps vous faites un plat intermédiaire, l'avantage c'est que ça vous permettra d'intercaler un autre vin rouge qui sera un peu moins fort que celui qui va finir votre repas. Et ce deuxième vin qui sera le premier des vins rouges, pardon, sera réutilisé pour votre fromage. Le plateau de fromage, l'inconvénient, c'est qu'on a tendance à le servir toujours avec le dernier vin rouge que l'on a consommé. Je crois que c'est une grosse erreur. Enfin, je ne le crois pas, j'en suis sûr, pardon de corriger. Mais je vois mal comment on peut déguster un bon chèvre avec un vin rouge puissant. Je ne suis pas d'accord, moi, pour qu'on goûte un petit fromage de brebis en pâte pressée ou autre avec là aussi un vin rouge très fort. Les vins blancs vont très bien s'associer avec cela, mais en vin rouge, vous pouvez travailler avec un petit Beaujolais, vous pouvez travailler avec un petit Côte-du-Rhône, Costière de Nîmes, vous avez des choses qui sont super sympas. Et si vous êtes sur les Costières de Nîmes, ça vous donnera la liaison immédiate pour là aussi finir votre repas avec des vins de Jonquière Saint-Vincent. C'est que vous aurez des saveurs beaucoup plus de fruits compactés, des styles de saveurs de coin, choses comme ça, qui elles aussi vont aller forcément très bien avec les bûches, les beurres travaillés pour les bûches de Noël, etc. Mais également avec certaines minières, disons.
Donc le fromage plutôt avec du blanc, parce que le rouge, ça casse
le goût. Pas systématiquement
quand
même. Hein. D'accord. Pas systématiquement. Hein. Les poisses de Bourgogne, avec du blanc, ça ne va pas le faire. Hein.
D'accord. Si on revient un peu sur le repas, donc on peut avoir un vin en apéritif qui servira pour le foie gras, un second blanc pour les fruits de mer, un rouge pas trop fort pour le chapon. Et vous conseillez donc un blanc pour le fromage.
Oui, mais si vous faites un plateau de fromage assez généreux, accompagné de noix, par exemple, là, on va retrouver le terroir. Donc, je vous invite à aller plutôt, par exemple, sur des Cahors, des choses comme ça.
Sur votre repas de Noël, vous conseillez un digestif particulier pour finir ce grand repas ou non, on s'arrête au...
Je crois que les bons repas n'ont pas besoin de se conclure par un feu d'artifice ou qui serait mal vécu par la plupart des invités. La diversité déjà des plats, la richesse de ces mêmes plats, il en va de même pour ces vins, la personne va être déjà alourdie. Alors si en plus vous prévoyez de faire ou une petite sortie ou rester entre amis, ou etc., je crois qu'il vaut mieux prolonger avec tout ce qu'il y a d'agréable. Ben, ça peut être le champagne pour certains, le crémant pour d'autres, et éventuellement tout simplement des petits jus de fruits.
On peut servir un vin chaud en digestif?
On va peut-être attendre qu'il fasse vraiment froid. Après la soupe à l'oignon, peut-être.
Donc, alors, pour ne pas dépenser trop d'argent tout en ayant accès à du bon vin, rappelez-nous alors, introduction, apéritif, foie gras, qu'est-ce qu'on peut acheter pas trop cher et de bonne qualité?
Si on part sur des vins du Languedoc, par exemple, puisque je suis aussi là pour parler de ces vins-là, on peut très bien partir pour les moyens limités avec le domaine des églantiers, c'est la Claire d'Adissan, c'est un vin blanc moelleux. Vous pouvez le servir aussi bien à l'apéritif que pour votre foie gras, votre entrée, cuisiner, etc. C'est un vin que vous avez touché à 3 euros à peu près, 3,20 euros. Si vous voulez marquer le coup un petit peu plus sympathique, ben, vous avez bien sûr tous les coteaux du Layon qui sont des vins de Touraine, etc. Là, vous allez être sur des vins entre 6 et 10 euros. C'est largement suffisant. Les Picpoules, pour revenir sur le Languedoc, ce sont des vins qui seront exclusivement fruits de mer. On va travailler ici sur des 5 à 12 euros, même avec les médailles, puisque tout à l'heure vous faisiez référence à ceci. Si vous partez sur des muscats, il faudra compter un petit peu plus quand même, parce que les muscats de Saint-Jean, etc., sont des valeurs entre 12 et 15, 18 euros. Pour les vins rouges, on peut travailler, pour les rosés que je vous parlais tout à l'heure, au domaine de la Renadière, pour ne pas les citer, mais en Fougère, une valeur sûre. Alors, vous ne prenez pas la tête, en plus, ça va servir à 12-14 degrés, puisqu'on peut le boire frais ou moins frais. C'est un vin qui va être à 6-7 euros maximum. Donc là aussi, vous pouvez le réutiliser facilement pour après le boire un peu plus tard, si vous restez des flacons. C'est difficile de cerner, de voir la quantité à acheter. Pour les vins rouges, si vous partez sur des Costières de Nîmes, ils peuvent vous faire toute la suite du repas. Si vous partez sur des Pics Saint-Loup et pas des Pics Poules, les Pics Saint-Loup, alors je vous ai donné la palette, on va démarrer à 6 euros, on va jusqu'à 35-40 euros minimum. Là, pas de souci, hein, c'est des vins qui vont se boire dans toutes les situations, à tous les moments, entre amis, mais même avec un apéritif, si vous avez des passionnés de vins, ils vont apprécier énormément. Et après, pour les desserts, si vous avez les moyens de vous offrir du champagne, je vous laisse choisir, et je vais vous faire un petit aveu tout à l'heure. Et si vous préférez les créments, qui sont quand même nettement moins chers, mais qui sont de même fabrication que les champagnes, avec là, l'avantage, c'est que vous pourrez jouer l'originalité du décor, de l'association, etc. Les créments, vous en trouvez à partir de 3 euros, 4 euros, ça va jusqu'à 12 euros. Donc on est quand même dans une gamme de prix très intéressante. Hein, voilà. Pour les champagnes, ce que je voulais vous dire, vous savez, en France, il n'y a qu'un seul vin qui soit autorisé à mélanger du vin blanc avec du vin rouge, c'est le vin de champagne. C'est pour ça qu'on a les champagnes rosés. Alors ne vous fiez pas à la couleur du champagne pour dire celui-ci est meilleur que tel autre. Pas du tout, c'est tout simplement dans une idée de packaging, de marketing. Le champagne blanc, rosé, ça existe, c'est tout.
D'accord, merci Ghislaï. Pour finir, le prochain atelier des Sarmentelles, la prochaine réunion, c'est quand?
Alors, ça sera le deuxième vendredi du mois de janvier.
D'accord, ben on donne rendez-vous à tous les amateurs de vin. Avant la coupure musicale, peut-être un petit jeu, Navina, pour gagner des places pour aller voir Didier Porte ce jeudi à 20h30 au Théâtre de Mende.
Et oui, et la question va être très très dure. Combien de verres peut-on prévoir pour ses convives avec une seule bouteille? Ouais. Le conseil a été donné tout à l'heure par Guissaé.
Voilà, combien de verres par convive pour un repas de Noël? Vous pouvez nous répondre, alors pas par téléphone aujourd'hui, parce qu'on est en nombre restreint, sur notre site Facebook, donc c'est Facebook Mende Lozère, ou sur, par mail sur redac@48fm.org. On vous retrouve après une légère pause musicale avec Mélanie Querchamp pour des idées cadeaux, et on va écouter tout de suite Elliott Smith.
FM Le Mag.
Et nous voilà de retour pour cette seconde partie de l'émission. Navina, une question un peu dure quand même pour ces places à gagner. Peut-être un indice ?
Il faut se demander, pour répondre correctement à la question, combien de jours à une semaine habituelle ?
D'accord, on va y réfléchir. Peut-être que ouais, ça peut aider.
Il suffit de compter lundi, de compter. Mardi.
Voilà. En attendant, on va parler d'idées cadeaux avec donc Mélanie Querchand de la Maison Solidaire. Alors, ça vient suite à un atelier que vous avez mis en place. Peut-être avant de commencer à en parler, faire un point sur la Maison Solidaire et justement les ateliers que vous proposez.
Oui, donc la Maison Solidaire est le centre social qui est sur Mende et qui est géré par le CIAS Cœur de Lozère. Donc sur le centre social, j'anime une fois par mois des ateliers de vie quotidienne. Et donc pour le mois de décembre, avec les fêtes qui approchent, l'atelier s'intitulait « Faire le choix du cadeau maison ». Et donc voilà, mais ce sont des ateliers qui ont lieu une fois par mois sur des thématiques liées à notre quotidien, que ce soit l'alimentation. Là, on était plutôt sur loisirs, bien-être, fêtes, partage. Mais ça peut être sur alimentation, donc des ateliers cuisine, sur de l'entretien, de l'habitat, faire des produits soi-même, etc.
Et justement, ça a attiré du monde, vous avez dû en refuser pour cet atelier.
Oui, pour l'atelier « Faire le choix du cadeau maison », j'ai accueilli 14 personnes, c'était un groupe conséquent, et j'ai dû en refuser 5.
C'est vrai que c'est dans l'air du temps, et justement, vu le nombre de bouteilles de vin que nous a fait acheter Guy, eh bien, on n'a plus d'argent pour les cadeaux. Alors Mélanie, comment construire soi-même son cadeau ?
Mais tout d'abord, je voulais dire que si l'atelier s'intitulait « Faire le choix du cadeau maison », c'est peut-être pas pour rien, parce que c'est déjà accepter, c'est s'autoriser le fait de faire un cadeau soi-même et se rappeler qu'à Noël, c'est pas tant acheter des cadeaux, c'est surtout les offrir. Et donc, se rappeler qu'on a ce plaisir à offrir à nos proches, la plupart du temps, ces cadeaux-là. Et à l'heure où on parle de crise économique, de difficultés à boucler les fins de mois, à l'heure où c'est peut-être difficile de dépenser, ou en tout cas d'offrir des cadeaux qui coûtent cher, se recentrer sur le fait de faire soi-même et d'offrir un cadeau qui a un petit peu de soi au sien, eh bien, ça a du sens. Donc,
alors, voilà. Chaque année, moi, je fais un dessin pour Ludovic, ça lui va plus. Cette année, il veut que je fasse un cadeau moi-même et qu'il soit autre chose qu'un dessin. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple ?
Oui, alors, par exemple, si vous étiez venu jeudi dernier, on aurait pu faire un petit peu plus élaboré, par exemple. Cela dit, le dessin, c'est tout à fait valable. C'est qu'il n'a pas su l'apprécier.
Il manquait la couleur.
Il manquait la couleur. Donc, jeudi dernier, nous avons fabriqué... Donc, nous étions entre le bricolage et un petit peu de couture. Ce n'était pas un atelier couture. Nous avons fabriqué des fleurs japonaises en tissu qu'on peut décliner sous plusieurs formes. Nous, là, on a fait des broches et des porte-clés. Ça peut aussi se décliner sous forme de barrettes, de colliers, de plein de petits accessoires qui sont très à la mode en ce moment. Et voilà, quel était le thème de jeudi dernier.
Il faut quoi pour faire ces fleurs japonaises ?
Donc, ces fleurs japonaises, donc on va partir sur la forme principale. Hein, pour donner une petite idée aux personnes qui nous écoutent, c'est une fleur gonflée. À l'intérieur, on remplit de laine. Nous, c'était de laine cardée, mais c'est une fleur qui a une forme gonflée. Donc, les matériaux utilisés, on reviendra plus en détail tout à l'heure, j'imagine, mais les matériaux utilisés, c'était des matériaux de récupération. C'était quand même le thème. Faire soi-même, c'est une chose, et en plus, utiliser des matériaux récupérés, recyclés, c'en est une autre aussi. Donc là, il fallait juste venir avec des bouts de tissu. On a tous ça. Ça peut même être une vieille chemise qu'on ne peut plus voir. Des vieux tissus, des chutes de feutrine. Dès qu'on a des enfants, on a ça au fin fond d'un tiroir, des chutes de feutrine, des bouts de fil à broder. La grand-mère a toujours ça au fin fond de sa boîte à couture. Et venir avec son petit matériel de base de couture. Ça pouvait être juste des ciseaux, du fil et une petite aiguille. Voilà. Donc il ne fallait pas acheter quelque chose déjà pour fabriquer.
Et on s'y prend comment, du coup, pour faire ces fleurs, pour ceux qui n'ont pas pu venir à cet atelier?
Voilà. Et
qui
donc, je vais essayer de synthétiser grossièrement, mais cela dit, peut-être qu'on pourra même mettre une petite photo sur le site.
Absolument.
Donc, l'idée, c'était de découper un rond de 12-13 cm de diamètre dans un vieux tissu. Voilà. Et avec ce rond, on fabrique une petite bourse, en définitive. Vous voyez, les bourses, les petits porte-monnaie dans lesquels on met les pièces. Avec un fil, on mettait un fil autour de ce bout de tissu, on tirait, ça faisait une petite bourse. Cette bourse, on la remplissait de laine cardée et qu'on fermait derrière par un petit point de couture. Voilà, donc ça donnait une petite boule en définitive. Et cette petite boule, en y faisant passer en son centre du fil à broder et en tirant bien, on faisait apparaître 6 pétales. À chaque fois, on tirait le bout de le fil à broder qu'on faisait repasser par derrière à chaque fois, 5 fois, et ça forme des pétales gonflés en définitive sur cette fleur. On rajoutait là-dessus des petites breloques, c'est ce que j'appelle des vieilles perles. Alors là, pour le coup, j'ai acheté quelques toutes petites choses qui représentent pas grand-chose, quelques perles un peu brillantes, ou voilà ce qu'on appelle des breloques pour que ça fasse quelque chose qui pend de la broche, par exemple. Voilà. c'est avec ça qu'on peut rendre l'objet un petit peu tendance et l'adapter surtout à un public féminin, selon si on veut offrir ça à une...
Moi, j'aime bien les broches.
À une dame, à un monsieur. Donc, c'était plutôt le modèle porte-clés pour les messieurs et avec des teintes plutôt marron, terre, noir éventuellement, et, ou pour enfants, des teintes plus pastel ou plus vives, au contraire, voilà, des modèles plus enfants. Ça, on peut vraiment adapter au public, à qui on veut, à la personne à qui on veut offrir, en définitive.
Ça prend combien de temps pour faire ça?
Alors, nous, l'atelier durait 2 heures. Alors, pause, café, bienvenue, etc., comprise, donc on va dire 1h30. 1h30, on se met sur la table, on s'y met 1h30.
C'est surtout des travaux de couture.
Mais justement, j'insiste sur le fait que ce n'était pas un atelier de couture. Il fallait quand même savoir mettre, à un moment donné, du fil dans une aiguille et faire 2 petits points pour fermer cette petite boule initiale. Mais alors, il suffit de savoir enfoncer une aiguille dans un tissu. Ce n'est pas de la couture. On est plutôt entre le bricolage et la bidouillerie. Voilà, moi j'appelle ça comme ça parce que je ne suis pas couturière.
Et moi, j'aime bien les cartes de vœux. Et alors, j'avais vu une émission où certaines personnes fabriquaient leurs cartes de vœux avec du découpage, du bois, des choses comme ça.
Voilà, on reste un petit peu sur le même principe.
Chez vous.
Voilà, on peut rester sur ce même principe de récupérer des chutes de papier, aussi de tissu. C'est ce qu'on appelle un petit peu plus le scrapbooking. Et voilà. Alors moi, je ne suis pas connaisseuse et je ne sais pas forcément le faire, mais on reste sur cette même thématique de récupérer, de faire soi-même et d'offrir avec le cœur.
Développement durable.
Développement durable.
C'est ça.
Voilà.
Est-ce qu'on peut intégrer, par exemple, une petite photo marrante en miniature sur ces fleurs pour personnaliser encore ces broches, porte-clés ou...
Alors là, j'y avais pas forcément réfléchi. Sur ce modèle de fleurs, à mon avis, c'est difficile. Cela dit, c'est vrai que l'application de photos est quelque chose qui se fait. Je partirais plutôt sur le scrapbooking dans ces cas-là. Faire une carte personnalisée qu'on offre pour fêter la nouvelle année à ses proches, par exemple. Voilà. Là, non, on était plutôt sur l'application de petites choses qu'on trouve chez soi. Voilà, avec ces chutes de tissu, ces bouts de fil, rassembler tout ça et se dire, tiens, mais je ne les garde pas au fin fond de mon placard pour rien, mon mari ne râle pas pour rien, ça sert un jour ou l'autre, voilà. Je le prouve.
C'est génial, vous allez pouvoir nous faire les colliers anti-gouttes pour les bouteilles de vin.
Oui, moi je...
Rembourré,
voilà.
On a besoin de compétences particulières ou c'est vraiment à la portée de tous?
Non, justement, le but de l'atelier, c'était de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de compétences particulières, ni de couture, ni de bricolage. C'est à un moment donné, s'asseoir, se mettre autour de la table et se dire « je vais le faire ». Il suffit d'avoir deux mains en bon état et on arrive à faire beaucoup de choses en définitive. Mais aussi, c'est s'autoriser et se dire « je vais offrir ensuite ce cadeau, je vais faire un joli petit paquet et je vais l'offrir à ma mère, à mon conjoint, à ma sœur » et se dire « je ne l'ai pas acheté, je l'ai fait et ça a de la valeur. Voilà.
Alors, des broches pour les femmes et pour les hommes et les enfants, est-ce que vous avez des idées cadeaux?
Voilà, alors pour les hommes, en définitive, la broche, enfin, la fleur japonaise pouvait servir, vous voyez là, alors ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais je vous montre.
On va le décrire.
Il y avait un porte-clés avec ce même principe de fleurs, mais on a utilisé des teintes marron, des fils à broder ocre et à l'intérieur, j'ai mis une petite perle en bois. On peut utiliser des matériaux qui font plus penser à un public masculin. Et j'ai fait porte-clés. Une broche, c'est évident, un homme ne la portera pas. Un porte-clés, en définitive, on y accroche ses clés du quotidien dessus. Et plusieurs fois dans l'année, on se dit, oh, ben, tiens, c'est vrai qu'on m'avait offert ça. On a passé du temps, on a pensé à moi. Et un homme peut très bien l'utiliser. Pour les femmes, c'est vrai que c'était plutôt broche. Et pour les petites filles, ou en définitive, les personnes qui étaient là ont pas mal fait de broches. Et avec des teintes très vives. Très vives, des perles beaucoup plus colorées. Pour une femme, on va rester plus sobre. Mais pour les petites filles, toutes les fantaisies sont autorisées.
Est-ce qu'on peut en faire des colliers, des boucles d'oreilles également?
Oui, alors c'est vrai que ces fleurs japonaises, ceux qui ont l'outil informatique et l'accès à Internet pourront vraiment aller taper ça sur Internet. On peut décliner ça sous plusieurs formes. Moi, là, j'ai des modèles de barrettes, j'ai des modèles de colliers, parce qu'on peut les additionner entre elles, ces petites fleurs, et faire beaucoup de choses. Barrettes, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Colliers et bagues, des petites bagues aussi, avec des modèles plus réduits, par contre.
Très bien. Donc, ce qui me reste à faire, c'est découper le maillot du MHSC qu'a Ludovic pour lui faire un magnifique porte-clés MHSC.
Voilà,
par
comme
exemple.
Ça, quand je le sors, je me dis, j'ai failli avoir un iPad. Et non, j'ai un porte-clés.
Et plus de maillot.
Et plus de maillot.
Voilà, on peut personnaliser de cette manière, effectivement. Pourquoi pas? Ben, je pense notamment à un petit garçon, par exemple, qui serait fan d'une équipe de foot.
Comme Ludo.
Et notamment, je pense à mon fils qui lui est rentré en 6e. Maintenant, il a les clés quand il rentre, etc. Il est autonome. Et ben, voilà, pour décorer ce porte-clés de l'enfant qui rentre en 6e aussi, lui dire, voilà, aux couleurs de ton équipe, voilà, utiliser les mêmes couleurs et faire un petit porte-clés, je pense qu'il sera ravi.
Alors, qu'il y a certains qui ont peut-être raté cet atelier-là, mais vous faites chaque mois un autre atelier autour de la vie quotidienne. Et justement, en janvier, vous allez tout faire pour qu'on prenne bien soin de notre peau abîmée par le froid.
C'est ça, ou par les excès alimentaires des fêtes. Donc, au mois de janvier, à la Maison Solidaire, nous allons accueillir une esthéticienne. Donc, c'est très exceptionnel, hein, nous allons avoir une invitée qui va nous expliquer pendant un premier temps comment prendre soin de notre peau, notamment la nettoyer. Et dans un second temps, nous allons fabriquer ensemble un masque de beauté à base de produits naturels. Voilà, ça c'est l'atelier de janvier. C'est aussi le moyen de passer un moment ensemble, on est en groupe restreint, de passer un moment ensemble, de partager ce moment convivial aussi. Au mois de février, il y aura un atelier de cuisine sur le thème des petits déjeuners, changer un petit peu de la tartine confiture café, si traditionnelle en France. Et au mois de mars, au-delà, on verra plus tard, au mois de mars, ce sera un atelier autour des semis de printemps.
Pour s'inscrire à ces ateliers ?
Alors, il faut appeler le numéro de la Maison Solidaire ou passer directement. Je ne sais pas si je peux le donner.
Bien sûr, allez-y.
Donc, c'est le 04 66 31 30 44.
Ce serait pour le jeu, ça. Après.
Pour ceux qui veulent faire les cadeaux de Noël que vous avez proposés, il y a des modèles qui expliquent, on peut les retrouver.
Alors déjà, éventuellement, moi je peux fournir le tuto, c'est-à-dire le modèle, les patrons que j'avais préparés pour cet atelier. Sans aucun souci, je peux le diffuser. Nous, sur la page de la radio, on a dit qu'on pourrait peut-être mettre des photos. Et sinon, si vous tapez sur Internet « fleurs japonaises en tissu », ça croule de tutos et d'exemples et de modèles. Et allez-y, parce que vraiment, il y a des choses adorables. Et vraiment, on peut faire ce choix du cadeau maison avec ce type de petits cadeaux.
Oui, comme vous dites, ça fait plaisir d'offrir un cadeau que l'on a soi-même fabriqué.
C'est ça. Ça prend toute sa valeur.
Mais en plus, on voit maintenant énormément d'émissions de télé qui sont en train de mettre en avant ce cadeau fait maison. Je regardais encore, je crois, hier soir, une dame qui faisait son petit sapin de Noël pour 5 euros.
Voilà, je crois qu'aussi on peut privilégier cette économie en définitive pour peut-être après répartir le budget sur d'autres dépenses. Et en ces périodes de fête, c'est une histoire de stratégie aussi. Actuellement, on en est parfois là et ça a du sens. On ne se prive pas de faire un cadeau, mais on le fait autrement.
Voilà, surtout pour par exemple les desserts, puisque je crois que notre ami est arrivé.
Voilà, on va parler on va parler pâtisserie après une pause musicale. Un nouveau jeu pour gagner des places pour Didier Porte, Navina.
Alors, on a entendu Mélanie qui nous expliquait qu'on pouvait fabriquer facilement des fleurs en tissu soi-même. Mais quelles fleurs peut-on fabriquer
en tissu ? De quel pays ?
De quel pays, surtout ?
Voilà, mais la réponse toujours par mail, redac@48fm.org ou sur nos réseaux sociaux. Allez, nouvelle pause musicale avec les bébés brunes et Couilles blessures.
48 FM Le Mag.
Et voilà la dernière partie de notre émission avec Bruno Majorelle qui vient de nous rejoindre. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Donc vous êtes pâtissier et bien sûr en ces périodes de fêtes de Noël, la pâtisserie, les desserts, les chocolats, c'est important. Peut-être pour commencer, on a parlé de repas de Noël tout à l'heure avec le vin, un repas de Noël qui rime bien évidemment avec bûche. Vous, vous êtes plutôt bûche glacée ou bûche pâtissière ?
Eh bien, on fait deux sortes de bûches. On a la bûche traditionnelle pâtissière roulée, comme il se faisait il y a des années, avec un biscuit à la cuillère. Et puis après, on a la bûche glacée sous deux formes, plutôt chocolatée ou plutôt vanille fraise traditionnelle.
Ça marche toujours autant, la bûche, en ces périodes de Noël, où les gens...
Les gens, peut-être, on peut délaisser la bûche pour d'autres desserts plus modernes, plus servis à l'assiette, au verre, qu'on propose différents restaurants, ou qu'on voit à la télé, dans toutes ces émissions de cuisine qui nous servent tous les jours.
La bûche, c'est un dessert quand même assez lourd. Est-ce que la bûche glacée est moins lourde que la bûche pâtissière ?
Non, la bûche pâtissière est un dessert assez léger parce que le composant principal est quand même le biscuit. Et après, il y a la crème pâtissière qui vient assouplir le biscuit et permettre de le garder onctueux et facile à manger, quoi.
Oui, et si, par exemple, moi, j'aime pas la bûche, qu'est-ce que je peux trouver pour accompagner mon repas de Noël avec tous mes convives qui vont être déçus parce que, justement, il n'y a pas de bûche ?
Ah ben, de toute façon, on propose tous les desserts qu'on fait toute l'année sur réservation ou il y en a un magasin. Et on peut faire son choix et sa composition, des petits gâteaux, des petits choux caramel, des choux chantilly, des champignons en meringue garnis de chantilly, tout. Il y a un choix qui est assez large de pâtisserie.
Est-ce que vous proposez aussi, de manière justement individuelle, des verrines, par exemple ? Des verrines à emporter et à choisir individuellement pour se faire sa petite composition ?
Des verrines, on en fait au cours de l'année, mais à la période des fêtes, on n'en fait pas parce qu'on a une surcharge de travail qui ne permet pas de faire un choix aussi grand de pâtisserie.
Vous l'avez évoqué, la surcharge de travail. En moyenne, vous fabriquez combien de bûches par jour ?
Ah ben, c'est variable parce que là, pour le moment, ça n'a pas vraiment débuté. La vente de bûches se fait essentiellement les 2-3 jours avant Noël.
Et là, à ce moment-là, vous carburez à combien de bûches par heure ?
Ça ne se compte pas vraiment parce qu'on produit au fil de la demande et suivant le parfum qui est demandé, si c'est plutôt crème pâtissière marron, crème pâtissière café praliné.
Est-ce que vous faites des essais justement de parfums qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans des bûches ?
Une bûche tomate par exemple ?
Non, j'en fais pas d'essais parce qu'on a quand même une bonne vente de bûches actuellement. Et donc de ce fait, on n'essaye pas de diversifier vu qu'il nous faut tout notre temps déjà pour produire les bûches qu'on fait actuellement.
La bûche rime peut-être avec tradition, on en parlait tout à l'heure. Et peut-être que changer la bûche, c'est compliqué.
Voilà, on reste dans le classique.
Oui, on reste dans le classique, mais c'est vrai que la bûche a quand même un peu diminué, je pense, par rapport aux desserts à l'assiette et aux desserts qui sont proposés, différentes sortes maintenant.
Pourquoi la bûche est en fait devenue une tradition à Noël ?
Alors ça...
Il y a plusieurs histoires. Il y a la bûche de la veillée, comme était dans le feu pour qu'elle tienne pendant toute la veillée, après qui a été détournée en moyenne de pâtisserie. Après, il y a d'autres histoires, mais chacun prend la sienne et l'agrémente à sa façon.
Est-ce qu'il y a encore, à une époque, ça se faisait beaucoup, les bûches presque pur beurre ?
Oui, je pense qu'il y a certains pâtissiers qui en font encore. Mais bon, nous, ce n'est pas un choix qu'on a fait dans notre pâtisserie de faire cette bûche-là.
C'est moins apprécié aussi ?
Oui, parce que déjà de dire pur beurre, ça fait lourd, ça fait gras. Déjà, on mange pas mal au repas de fin d'année, donc c'est vrai que ça fait quand même une surcharge pour le foie et l'estomac.
Alors, en ces périodes de crise, on sait que ça peut être difficile. Imaginez, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas passer à acheter une bûche chez un professionnel. Est-ce qu'on aurait une petite idée de recette d'un dessert, donc pas bûche parce que ça me paraît compliqué à faire, mais de dessert qu'on pourrait faire pour ces repas de fête ?
On peut toujours faire une verrine avec des fruits frais à base d'orange et un peu de crème fouettée ou quelque chose ou de la glace qui est toute simple. Et on peut arriver à faire agrémenter quelque chose de très sympa et faire quelques biscuits à la maison, quoi. dans son four de ménager.
Pas une de sorte de café gourmand, finalement.
Voilà, de café gourmand. Voilà.
Est-ce que le pain d'épices marche bien en cette période aussi?
Nous, on n'en fait pas particulièrement, mais je pense que c'est un produit qui est de saison, parce que bon, ben, c'était un produit spécifique à une région, qui est quand même le nord-est de la France, mais qui s'est développé dans toute la France. Et donc, qui, je pense, c'est un produit qui se vend bien à cette période de l'année.
Alors, vous l'avez évoqué, pour vous, le grand rush est encore à venir. Dans les années passées, est-ce que vous avez eu des demandes de bûches un peu insolites, un peu extravagantes? Par
des
exemple,
bûches
une
de
bûche
4
de...
mètres.
Oui, ou de 5 mètres de haut.
Non, on n'a jamais répondu à ces demandes insolites. On n'a jamais eu non plus. Donc, pour le moment, non.
Mélanie, vous êtes pâtisserie?
Alors, je suis... alors, pâtisserie, non, j'en consomme pas tant que ça. Par contre, je reviens sur l'idée peut-être de faire sa bûche soi-même. C'est pas si compliqué que ça, en définitive. La génoise est pas particulièrement difficile. Ça prend du temps, c'est toujours pareil. On s'y met, on décide de s'y mettre une après-midi, pourquoi pas, un bon livre de recettes. Et c'est pas si compliqué que ça. Il faut s'enlever cette idée de la tête. Enfin, je suis désolée pour la professionnelle, du coup.
Il n'y a pas de souci.
Mais je pense que ça ne se compare pas de toute façon. C'est pas le même produit, donc c'est pas une histoire de concurrence. Mais je crois qu'il faut, c'est pareil, se dire je suis capable, j'ouvre un bon livre de recettes. Et c'est la génoise, la bûche, c'est la génoise. Après, à l'intérieur, on y met ce qu'on veut. C'est pas forcément une crème pâtissière. Ça peut être une bonne crème de marron. Ça peut être, puis après, recouvrir tout ça de chocolat fondu. Et avec une fourchette, quand on trace les traits sur le chocolat fondu, ça fait le dessin de la bûche, trois décorations. Et puis, osons, en définitive.
Moi, j'ai pas le temps, j'ai des cadeaux à faire, à construire moi-même.
À fabriquer.
À fabriquer.
Moi, je bois le vin.
Et toi, tu bois le vin, on peut pas.
J'avais juste une question encore. Est-ce qu'il existe aussi des bûches salées, par exemple, qu'on pourrait envisager de faire une espèce de comme le pain surprise, mais en forme de bûche pour l'apéritif?
Au jour d'aujourd'hui, j'en ai jamais vu, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a toujours les grands pâtissiers français qui sortent la bûche en édition limitée, mais je n'ai jamais vu de bûche salée. Ils ont des superbes bûches haut de gamme, très haut de gamme.
Vous parliez des chocolats tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des chocolats particuliers pour ces périodes de fête à manger avec une mandarine? Plutôt chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous...
Le chocolat noir ira plus avec des fruits. Et puis le chocolat au lait, peut-être avec quelque chose qui est plus pimenté, plus relevé. Et nous, on sortit des ganaches au piment d'Espelette, qui est une ganache au lait, enrobée de chocolat au lait. Et puis, à contrario, il y a une ganache cerise rouge qui est enrobée de chocolat noir.
Est-ce que les macarons, c'est permis aussi à Noël, en dessert?
Le macaron, c'est permis toute l'année.
C'est comme le vin.
Bon, bah, si c'est comme ça.
Et le chocolat.
Et la truffe, justement, ça marche bien aussi, non, pendant la période de Noël?
La truffe, c'est un produit, oui, qui marche très bien aussi.
Vous la travaillez, la truffe, ou c'est un peu trop compliqué pour vous, après, à revendre?
On fait des truffes en chocolat, mais on ne travaille pas le produit, la truffe, le champignon.
D'accord.
Alors moi, la semaine dernière, si je peux me permettre,
je pense qu'elle a fait des truffes.
J'ai fait des truffes maison, allégées, ça peut intéresser
elle fait tout elle-même,
personne qui
Mélanie.
Nous écoute. Donc j'ai fait des truffes à base de chocolat noir à 70% de cacao, de la purée de châtaigne, je n'ai pas parlé de confiture de châtaigne, purée de châtaigne et crème d'amande. On mélange tout ça, on fait fondre le chocolat, on mélange tout ça, on fait refroidir, après on crée des petites boules de forme truffe, on les roule dans le cacao amer, on les met 12 heures au frigo, et ça fait des truffes très bonnes, allégées, fait maison.
Oui, mais il faut attendre 12 heures. Ça m'a
il faut
déjà
attendre
mis l'eau
heures.
À la bouche.
C'est, ça. Ouais,
c'est difficile. Mélanie fait tout elle-même, voilà. Tous les commerces m'en doivent enfermer.
Non, je le sollicite parfois aussi pour plein de petites choses.
Peut-être pour revenir, si on veut réserver une bûche, il faut le réserver bien à l'avance chez vous. Comment ça se passe? Parce qu'avec cette période de forte augmentation...
Pour le jour du 24, on travaille toute la journée, on produit à la demande et il n'y a pas de réservation sur les bûches ce jour-là.
Ça vous prend combien de temps pour faire une bûche?
On est plusieurs, alors c'est un travail un peu... On est consacré qu'aux bûches ce jour-là. On fait très peu de préparation en dehors à part les commandes. Et donc, de ce fait, on travaille un peu la chaîne. C'est difficile à dire combien de temps on passe réellement sur une bûche, parce qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent, et c'est un travail successif d'équipe.
Et oui, il faut vite passer à autre chose, qu'il y a les galettes qui arrivent après.
Ah oui, ça s'enchaîne.
Et en cette période de fête, de boom, vous êtes combien en coulisses, justement ? Ça m'intéresse.
Ah ben, on est... Il y a cinq personnes avec moi et un apprenti.
Ah oui, ça fait du monde.
Voilà.
Alors, il y a la bûche au chocolat, il y a la bûche aux fruits rouges, il y a quoi c'est comme ça. D'autres saveurs, justement ?
Praliné.
Praliné et marron. Voilà, marron chantilly.
Vanille ?
Non.
Non, la boule de vanille, des fois, à côté.
Ah oui, on peut toujours agrémenter, on fait des glaces maison, avec on peut servir toujours une boule de glace avec, qui allège la fin du repas.
Voilà, avant les chocolats et les mandarines. Très bien, ben merci beaucoup. Rappelez-nous vos horaires et où vous êtes situé exactement dans Mende.
On est situé à la rue de la République et on est ouvert d'habitude du mardi au dimanche. Mais là, on sera ouvert lundi pour le 24 et le 31 décembre.
Et pour être sûr que Ludo ait sa petite bûche de Noël le 24 au soir, je viens vous voir. Dernier cara, à quelle heure ?
On sera ouvert jusqu'à 18h, 18h30.
Et il y aura encore des bûches à cette heure-là ?
Je pense, ça sera plus difficile vers ces horaires-là. Il vaut mieux venir à un début d'après-midi, mais...
On ira chez Mélanie, elle en a préparé plein.
Peut-être voilà. Voilà.
Sinon, vous aurez toujours la route de secours, voilà, de faire votre bûche à la maison, vous aurez encore un peu de temps.
J'aurais du mal, moi, mais... D'accord, mais merci à tous les deux. Voilà, c'était le dernier MAG de l'année 2012. On se retrouve en 2013. Merci. Et merci également à Navina.
Merci Ludovic, merci à tous, et puis bonne fête surtout.
Et bonne fête,
bonne fête à tous.
Et n'abusez pas des bonnes choses.